Or, ce qui ressort de cette deuxième lettre aux Corinthiens, c'est que certains chrétiens à Corinthe étaient tentés par ces enseignements apportés par ces super apôtres, et ils étaient tentés d'avoir un regard très négatif sur l'apôtre Paul, parce qu'il était, lui, si différent d'eux. Paul ne semble pas avoir été un orateur particulièrement éloquent. Par ailleurs, il était physiquement affaibli, sans doute, à cause des persécutions subies, coups de fouet, emprisonnement, coups de fouet peut-être aussi, mais emprisonnement surtout, etc. Et il y a ici ou là dans ses lettres quelques allusions au fait que c'était des marques physiques qui se voyaient. Mais dans cette lettre, Paul rappelle que son ministère n'est pas fondé sur l'éloquence ou sur la prétendue sagesse du moment, la philosophie à la mode. Son ministère vient de Dieu qui, par Jésus-Christ, l'a appelé personnellement à être apôtre envoyé de Jésus-Christ, qui l'a appelé par cette rencontre célèbre sur le chemin de Damas. Nous avons vu le chapitre 3 il y a quelques semaines et on avait vu que Paul, l'apôtre, a eu l'audace de se comparer à Moïse, l'homme choisi par Dieu, pour révéler la loi, l'instruction au peuple d'Israël. Et en réalité, l'apôtre Paul estime que son ministère et celui des autres apôtres est supérieur à celui de Moïse, parce qu'ils sont les proclamateurs, non pas de la loi donnée à Israël, mais de l'appel lancé par Dieu au monde entier à se tourner vers Jésus-Christ, à être réconcilié avec Dieu. On a eu donc ces affirmations impressionnantes au chapitre 3, et nous nous retrouvons au début du chapitre 4. La lecture de ce matin sera un tout petit peu plus longue qu'à l'accoutumée. Je vais lire les chapitres 4 et 5. Donc c'est pour ceux qui souhaiteraient suivre dans les Bibles bleues, c'est à la page 1129-1130. 2 Corinthiens chapitre 4. Dès lors, puisque nous avons ce ministère, selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les secrets de la honte. Nous ne nous comportons pas avec ruse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. En effet, ce n'est pas sur nous-mêmes que porte notre proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi en nous, c'est la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce en foisonnant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. Aussi, nous soupirons dans cette condition. Nous souhaitons vivement revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. S'il est vrai qu'une fois vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous soupirons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, pour que le mortel soit englouti par la vie. Et c'est Dieu qui nous a produits à cette fin même, lui qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous dans le corps, nous sommes en exil loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons un point d'honneur à être agréés par lui, que nous soyons chez nous ou en exil. Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les humains. Nous sommes en pleine lumière devant Dieu. Et j'espère être aussi en pleine lumière dans votre conscience. Nous n'allons pas nous remettre à nous recommander nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons une occasion d'être fiers de nous, pour que vous ayez de quoi répondre à ceux qui mettent leur fierté, non pas dans le cœur, mais dans les apparences. En effet, si nous avons perdu la raison, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. Ainsi nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau, et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, en mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait pour nous péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Amen. Quel beau texte. Dans ce texte, l'apôtre Paul affirme que les apparences sont trompeuses et que la puissance de Dieu ne se manifeste pas de la manière dont beaucoup l'imaginent. Alors comment est-ce que Dieu manifeste sa puissance, notamment dans le ministère de Paul et au-delà? Je vous propose une réponse en deux temps à la lumière de ce texte. D'abord, on va voir que Dieu manifeste sa puissance par la proclamation du véritable évangile. Dieu manifeste sa puissance par la proclamation du véritable évangile. Et puis dans un deuxième temps, Dieu manifeste sa puissance par la recréation de ses enfants. La puissance par la proclamation de l'évangile, premièrement. Les Corinthiens semblent avoir été des gens compliqués. Ils étaient à la fois très critiques quand il s'agissait des autres et ultra sensibles quand il s'agissait d'eux-mêmes. Toute ressemblance avec des personnes que nous pourrions connaître serait purement fortuite. D'un côté, il critiquait volontiers l'apôtre Paul, et d'un autre côté, eh bien, on a vu par exemple au chapitre 2 qu'ils avaient très mal pris un détail où Paul a changé son itinéraire et il a retardé une visite chez eux. Ils l'ont très mal pris. Et puis à d'autres reprises dans la lettre, on s'aperçoit qu'il soupçonne l'apôtre de ne pas dire tout ce qu'il pense ou d'avoir des projets secrets, etc. Et l'apôtre pourrait passer beaucoup de temps à se justifier, nous c'est... Je pense souvent notre tendance, lorsqu'on nous critique, de vouloir à tout prix répondre point par point. Mais en réalité, dans sa réponse aux Corinthiens, Paul ne cesse d'éloigner l'attention de sa propre personne et de la ramener sur la vraie question qui est l'attitude des Corinthiens par rapport à Jésus-Christ et à la bonne nouvelle. Paul sait qu'il n'est pas là pour défendre sa propre réputation. Il est le messager de Jésus-Christ. Et la seule chose qui compte vraiment, c'est que les Corinthiens connaissent celui qu'il proclame, c'est-à-dire Christ. Mais pourquoi est-ce que c'était si important pour l'apôtre de proclamer Christ, quel que soit le prix à payer, en termes de sa sécurité, de sa santé, de sa réputation? Défendre ses idées, c'est très bien, on est sans doute tous d'accord, mais y consacrer comme ça sa vie entière, au prix de souffrances en permanence, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et pour Paul, oui. ça en vaut vraiment la peine. Parce que l'évangile, c'est, comme il l'écrit par ailleurs dans sa lettre aux Romains, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il utilise également ce mot dans notre texte, la puissance, au chapitre 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. » Autrement dit, soit reconnue comme celle de Dieu et non la nôtre. Or, la puissance dont Paul parle, c'est celle justement qui vient de la proclamation de la bonne nouvelle. Verset 5, « Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. » Et à la fin de notre texte, chapitre 5, verset 20, c'est forcément un petit peu un survol qu'on fait aujourd'hui puisque le texte est long, chapitre 5, verset 20, Paul se présente comme ambassadeur pour le Christ. Dans ce même verset, d'ailleurs, il affirme que c'est Dieu qui encourage par lui et ses collaborateurs. Ou autre traduction, c'est Dieu qui adresse son appel. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et Paul précise juste après comment cette réconciliation avec Dieu est possible. Versets 20 et 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher. Une expression incroyablement forte. Dieu a tellement fait tomber sur Christ notre péché que Christ, c'est une image bien sûr, mais était péché. Non pas pécheur, attention, mais il était assimilé au péché aux yeux du Père à cause de nous. Dieu l'a fait péché pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et là encore, par le sacrifice de Christ, quand Dieu nous voit, il voit justice. Il voit une parfaite justice, non pas la nôtre naturelle, mais celle de Christ, mise à notre compte. Voilà un résumé de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et ce message dont Paul et les autres apôtres étaient porteurs n'est pas un message parmi d'autres. À l'époque, à Corinthe, c'est un peu comme aujourd'hui à Paris ou dans le monde occidental. On aime beaucoup les nouvelles idées, les nouvelles façons de voir le monde, nouvelles visions du monde. On aime beaucoup, ça nous fascine. Mais n'en déplaise à notre civilisation relativiste, et c'était un peu le cas à l'époque, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas simplement une conception du monde intéressante parmi d'autres. Ce n'est pas une religion parmi d'autres. Cet évangile, c'est la parole puissante de Dieu, le Créateur, qui adresse son appel aux hommes. Je ne sais pas si, comme moi, il vous arrive d'avoir envie que Dieu se manifeste de façon visible et évidente. On aimerait bien qu'il fasse entendre sa voix dans le tonnerre et que tout le monde vraiment puisse l'entendre avec des éclairs, etc. Un peu comme lors des épisodes dans le désert du Sinaï où Dieu faisait entendre sa voix et tout le monde tremblait. J'imagine déjà les réactions sur BFM TV. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui intervient? On aimerait bien cela. En tout cas, moi, c'est ma réaction. Mais en fait, Dieu fait entendre sa voix puissante lorsque sa bonne nouvelle est proclamée. Et si nous voulons que nos contemporains entendent cette voix et soient persuadés que Dieu existe et qu'il les appelle à entrer en relation avec lui, eh bien, c'est la bonne nouvelle de Christ que nous devons leur proclamer. Et cette bonne nouvelle n'est pas destinée à quelques privilégiés. Nous rappelle Paul, elle s'adresse à toute conscience humaine, chapitre 4, verset 2. Toute conscience humaine. Tous, bien sûr, ne réagissent pas favorablement à cet appel. Certains, précise l'apôtre, malheureusement, restent aveuglés par celui qu'il appelle le Dieu de ce monde, chapitre 4, verset 4, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi spirituel, non pas qu'il soit un Dieu, mais le monde le voit comme un Dieu, ou le monde agit selon ses préceptes et ainsi fait comme si c'était lui qui était Dieu. Mais Dieu appelle, il appelle les hommes qu'il a créés à revenir à lui, à recevoir son pardon de tous leurs égarements, à se laisser réconcilier avec lui. Quelle expression forte. Voilà ce que notre monde a besoin d'entendre avant toute autre chose, parce que le monde court à sa perte sans Dieu. Et même si nous n'avons pas un ministère comparable à celui de l'apôtre Paul, qui, le ministère des apôtres, était à certains égards unique, mais Dieu compte sur nous aussi, son Église, pour relayer cet appel. Or, cet évangile puissant est bel et bien à l'œuvre dans le monde, loin de l'attention des médias, qu'on en parle très peu. Et peut-être parce que nous vivons dans la région du monde qui est la plus endurcie contre ce message actuellement, Nous avons tendance à ne pas le voir, même nous qui sommes chrétiens. Mais chaque jour, par la grâce de Dieu, des dizaines de milliers, au moins, sinon des centaines, bon, chaque jour peut-être des dizaines de milliers d'hommes et de femmes se tournent vers Jésus-Christ partout dans le monde. On en parlait jeudi dernier pour ceux qui étaient là. L'association Portes Ouvertes estime qu'il y aurait au moins 200 000 chrétiens dans un pays aussi fermé que la Corée du Nord, un pays complètement fermé, où les chrétiens sont persécutés avec acharnement. Eh bien, il y en aurait entre 200 000 et 400 000, estime Portes Ouvertes. En Chine, alors que au 19e siècle, il n'y avait qu'une poignée de chrétiens, en 1949, ils étaient 1 à 2 millions, sans doute, eh bien, on estime qu'ils sont aujourd'hui entre 100 et 120 millions, au moins. En 70 ans, multiplié par 100. Alors, ces chiffres peuvent impressionner, mais ils ne doivent pas faire oublier la réalité personnelle, individuelle de ces conversions, de ces personnes qui se tournent vers le Seigneur, comme beaucoup ce matin. Écoutez ces quelques mots écrits par une ancienne employée de maison sri-lankaise qui a découvert l'évangile en prison dans un pays du Moyen-Orient où elle a été condamnée à perpétuité pour le meurtre de sa maîtresse qui la harcelait et la battait. Voici ce que dit cette jeune femme, condamnée à perpétuité. « J'ai remis tous mes péchés, mon désespoir et tous mes problèmes à Jésus, le Dieu vivant. Il est celui qui remplit mon cœur de paix et qui m'aide à changer ma vie. Maintenant, je vis une belle vie dans cette prison. Le Seigneur Jésus est avec moi tout le temps et je parle de lui aux autres. Il est notre vie, notre chemin et notre lumière. Personne d'autre n'a payé le prix pour nos péchés. Il est mort et ressuscité et aujourd'hui, il vit avec moi. » Voilà une femme dont la situation était désespérée et dont la situation à vue humaine est extraordinairement sombre, mais qui par sa foi en Christ non seulement a été réconciliée avec Dieu son Créateur, mais elle-même est devenue, dans son contexte, dans cette prison, proclamatrice de la bonne nouvelle. Même dans des circonstances aussi sombres qu'un emprisonnement à vie, sa vie a été transformée. Eh bien ça, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Alors j'entends d'ici peut-être les ricanements des beaux parleurs de ce monde. Mais comment cette femme peut-elle affirmer vivre une belle vie en prison? Le but de la vie n'est-il pas finalement de s'épanouir, de vivre des expériences fortes, d'avoir un bon travail, d'avoir une vie amoureuse comblée, une famille? Et voilà ce que répond l'apôtre Paul. Chapitre 5, versets 14 et 15. « L'amour de Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Autrement dit, si nous voulons savoir quel est le sens de la vie, l'apôtre Paul et surtout Dieu nous répond, regardez à la croix. En mourant sur la croix, Jésus a entraîné avec lui toutes les idoles humaines, toutes ces fausses raisons d'être, qui en réalité causait notre perte en nous éloignant de notre Créateur. Cette vie sans Dieu, Jésus-Christ en a payé le prix définitif à la croix. Mais en Christ, la vie a triomphé de la mort. Et la résurrection de Jésus, ce n'est pas seulement un événement historique, ce n'est pas seulement la manifestation de la victoire de Jésus-Christ, mais en fait, cette résurrection nous place devant un choix, nous tous. On peut continuer à fonder sa vie sur une illusion tragique, qui est celle de l'absence ou de l'indifférence de Dieu, ou d'un Dieu qui attend de nous une sorte de performance religieuse. On peut continuer à fonder sa vie sur cette illusion tragique. Or, Paul rappelle au chapitre 5, verset 10, qu'un jour, chacun se trouvera face à son Créateur et devra rendre compte de sa vie. Donc ça risque de mal se passer si on vit sa vie sur cette illusion. Ou bien on peut se tourner vers le ressuscité et on peut comprendre que la vie véritable, la vie que nous sommes appelés à vivre, c'est cette vie nouvelle qu'il a inaugurée, lui, à la croix. Une vie dans laquelle nous reconnaissons Jésus-Christ comme maître de notre vie et nous vivons avec lui, par lui et pour lui. Une vie dans laquelle, comme nous le verrons tout à l'heure, nous nous laissons recréer par Dieu. Quand l'évangile est proclamé, Dieu manifeste sa puissance, et Dieu transforme les vies. C'est pour ça que l'apôtre Paul refuse d'entrer dans le petit jeu des, des critiques sur sa personne. Il a vraiment mieux à faire que de répondre point par point. Parce que son message, c'est d'être, son ministère, c'est d'être le messager d'un message puissant et transformateur. Et ce n'est pas lui qui importe, mais bien Jésus-Christ. On peut employer cette image. Imaginez une maison en feu et un pompier qui, à l'aide d'un haut-parleur, doit expliquer aux habitants qui sont coincés dans la maison comment sortir. Leur dire, il faut passer par là, etc. Avant que la maison ne se consume ou qu'il soit asphyxié. Maintenant, imaginez qu'au lieu de raconter de donner ses instructions, le pompier commence à raconter sa vie, souligner quelques lignes de son CV, ou se vanter d'être le meilleur pompier de la caserne. Ou bien imaginez qu'il dise « Écoutez, moi je vais vous proposer une solution pour sortir de là, mais je ne prétends pas connaître la vérité. Ce que je vous donne, c'est un ressenti, une espérance, une parole qui vous aidera à vous dépasser vous-même, à trouver du sens dans ce non-sens, etc. etc. » Ce dont notre monde a besoin, ce n'est pas un ego de plus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui veut laisser son empreinte, qui veut se faire connaître et se faire apprécier. Ce dont notre monde a besoin, c'est de connaître le Créateur et le Sauveur. L'autre idée majeure de ces deux chapitres, que je voudrais examiner à présent un peu plus brièvement, c'est la puissance que Dieu manifeste dans la recréation de ses enfants. Dieu manifeste par sa puissance par la recréation, non pas la récréation, la recréation de ses enfants. À plusieurs reprises dans ce texte, Paul fait appel au vocabulaire de la création. C'est très frappant, ça se retrouve dans ces deux chapitres à plusieurs reprises. Il fait appel à cette œuvre de la création pour parler de l'œuvre de Dieu dans sa vie et dans celle des croyants. Déjà au chapitre 4, verset 6, il fait appel à l'image de la lumière qui brille dans les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit une image liée à la création. Le Dieu qui a dit « Du sein des ténèbres brillera la lumière » a brillé dans notre cœur pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. L'expression peut nous surprendre un peu. Il est probable qu'en écrivant cela, Paul avait à l'esprit sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, où brusquement il a vu la gloire de Dieu pleinement manifestée et incarnée dans la personne du Christ ressuscité. Et pour Paul, cette rencontre a été plus qu'un tournant dans sa vie, ça a été véritablement une nouvelle création. De la même manière que Dieu, en créant le monde, a fait briller la lumière dans les ténèbres, eh bien Dieu recrée ce qui se confie en lui. La lumière que représente la connaissance de Christ vient briller dans les ténèbres de notre aliénation loin de Dieu. Et même si la plupart d'entre nous n'ont pas connu une conversion aussi spectaculaire que celle de l'apôtre Paul, eh bien ce même processus de vie nouvelle est à l'œuvre dans nos vies, si nous sommes chrétiens. C'est ce que confirme l'apôtre vers la fin du chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. » Croire en Jésus, c'est accepter de donner sa vie présente tout entière pour en recevoir une nouvelle, héritée du ressuscité lui-même. Croire en Jésus et le suivre, c'est se placer à nouveau entre les mains du Créateur pour se laisser recréer, pour que Dieu, si on veut, reprenne le contrôle de notre vie et pour que sa bonne nouvelle soit au centre de notre identité, de notre pensée, de nos actions. Une recréation. Mais en entendant cela, deux critiques, au moins, peuvent surgir. Et la première, c'est peut-être celle que les Corinthiens ont faite à Paul. On la devine entre les lignes de sa réponse, cette critique. Alors, je caricature un peu, mais en gros, cher apôtre Paul, tu nous parles d'une vie nouvelle, tu nous parles de la gloire de Dieu, tu nous parles d'une nouvelle création, mais tu as vu ta tête, tu as des cicatrices, tu es faible, tu es persécuté, rejeté de partout, et tu nous parles de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. De notre côté, nous pouvons tenir un peu le même raisonnement, peut-être de façon plus subtile. Par exemple, lorsqu'on pense aux chrétiens qui souffrent, que ce soit nous-mêmes, que ce soit ici dans notre contexte, que ce soit dans les pays où la vie est particulièrement difficile, et on se dit, bah, c'est bien la peine de parler de relation avec Dieu, de parler de grâce de Dieu, de bonté de Dieu. À quoi bon ? La vie est si difficile. À quoi bon parler de la bonté de Dieu ? Et c'est vraisemblablement en réponse à ce type de critique que Paul répond avec cette célèbre image, chapitre 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Dans la pensée juive, Dieu est parfois comparé à un potier qui façonne des objets en terre. Et Paul rappelle ici que le but de la créature, c'est de refléter la gloire du Créateur, pas d'avoir sa propre gloire. Or, dans la Bible, on s'aperçoit souvent que Dieu choisit des hommes et des femmes peu impressionnants à vue humaine, ou qui vivent des circonstances difficiles, pour déployer d'autant plus sa puissance, qui ne rentre pas dans les catégories humaines. Plusieurs ont sans doute entendu parler de Joni Erickson Tada, une femme devenue tétraplégique dans sa jeunesse après un accident de plongée. Son livre témoignage, premier livre qu'elle a écrit, est très célèbre, c'est beaucoup répandu dans les milieux chrétiens. Cette femme a vécu une vie pleine de contraintes pénibles et pleine de souffrances physiques. Elle en témoigne d'ailleurs volontiers de cette souffrance. Et pourtant, Dieu l'a utilisée d'une manière extraordinaire. Par la force de son témoignage de foi et de fidélité, elle a écrit une cinquantaine de livres qui ont encouragé des millions de personnes. Elle a enregistré même des albums, je l'ai appris récemment, et j'en passe. L'impact de son témoignage, toujours centré sur Jésus-Christ, est exceptionnel. Et lorsqu'on y réfléchit, on s'aperçoit que la terrible épreuve qu'elle a vécue n'est pas un simple accident de parcours avec lequel elle a dû composer, mais cette épreuve est au centre de son témoignage et de son ministère. Dieu, dans sa sagesse souveraine, a choisi d'utiliser cette épreuve pour déployer sa puissance. Dans un corps marqué et souffrant, il a manifesté sa vie. J'ai parlé de Johnny, mais il y a un exemple bien plus décisif pour nous, c'est celui de la croix, où Dieu a utilisé l'apparente faiblesse de Jésus-Christ crucifié pour manifester en réalité sa puissance de manière incomparable en remportant la victoire sur le mal et la mort. Et lorsque nous passons par des épreuves, je crois que notre premier réflexe, et c'est très compréhensible, c'est de demander la délivrance de l'épreuve. Et cela est sain et juste. Jésus lui-même nous enseigne à prier « Délivre-nous du mal ». Mais est-ce que nous ne devrions pas aussi demander à Dieu de manifester sa puissance dans l'épreuve que nous vivons ? Lui qui a fait jaillir la vie éternelle de la mort, serait-il incapable de faire jaillir la vie, la paix et même la joie de nos épreuves ? Et c'est là que vient une deuxième objection que j'imagine. Est-ce que ce n'est pas le bon vieux truc de l'opium du peuple en quelque sorte ? Lorsqu'on vit une vie difficile, eh bien, on cherche une échappatoire. Et donc, on se raconte des histoires sur une prétendue vie éternelle, une vie nouvelle. Mais la foi chrétienne biblique est tout sauf une échappatoire, tout sauf un retrait du monde. Au contraire, nous aspirons à un monde entièrement renouvelé. Non pas un monde désincarné, mais un monde plus réel que jamais. Dans son livre Le Grand Divorce, C.S. Lewis a une image que je trouve très belle lorsqu'il parle de la nouvelle création, du nouveau monde, du paradis si l'on veut. Il décrit l'herbe comme étant douloureuse au début, tellement tout est solide, tellement tout est ferme, tellement tout est nouveau. Une petite image pour parler de cette vie qui engloutit tout. La foi chrétienne, c'est l'espérance d'un monde nouveau. Et non pas l'espérance du retrait du monde. Et l'apôtre Paul précise bien cela dans un passage qui est difficile, il faut le reconnaître, mais qui mérite de retenir notre attention juste quelques instants. Au chapitre 5, verset 1, il écrit ceci. « Si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fabriquée par des mains humaines. » Et à première vue, en lisant juste ce verset 1, on pourrait avoir le sentiment que Paul, ici, bah justement, il insiste sur une vie désincarnée. Mais plus loin, il précise sa pensée. Son désir n'est pas de perdre son corps, mais plutôt de revêtir un corps nouveau. Je lis le verset 4. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous soupirons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir pour que le mortel soit englouti par la vie. » Le passage est complexe parce qu'il semble que l'apôtre Paul fasse également référence à ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire l'attente de la résurrection, lorsqu'on s'en est allé lorsqu'on est mort, connu la mort physique et qu'on s'en va auprès de Dieu, eh bien avant cette résurrection qui vient au dernier jour, il y a cette attente joyeuse et paisible auprès du Seigneur, effectivement une attente purement spirituelle. C'est en tout cas l'interprétation majoritaire de ce texte. Et donc ça rend le texte un peu difficile puisque Paul y mêle différentes idées. Mais l'idée centrale de ce texte, lorsqu'on l'étudie bien, c'est un contraste entre le corps actuel et le monde actuel qu'il compare à une tente. Une tente, hein. Alors, Paul était fabricant de tentes, donc ce n'est pas surprenant qu'il ait eu cet exemple à l'idée. Une tente, c'est-à-dire une habitation fragile et temporaire. Et le corps et le monde futur qui seront une construction, dit-il, éternelle. Non plus une tente, mais une bâtisse, une construction éternelle. Et d'ailleurs, si on veut confirmation de cette espérance, eh bien un peu plus tôt au chapitre 4, verset 14, Paul écrit très clairement « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Mais cette vie éternelle n'est pas simplement un horizon futur. Ce n'est pas simplement pour demain. Dès aujourd'hui, Dieu nous invite à goûter au renouvellement profond de notre vie. Par la foi en Christ, nous avons été comme capturés par un Dieu qui est une source infinie et inépuisable de vie. Et ce Dieu a la puissance de faire déboucher toutes nos circonstances, même les plus dures, sur la vie, encore la vie, toujours la vie. Un jour, cette vie se manifestera par le renouvellement de nos corps et le renouvellement de toute la création. Mais dès maintenant, si nous avons placé notre confiance en Christ, eh bien la vie est partout au rendez-vous. Parce que connaître Dieu, le Dieu de la vie, et être réconcilié avec lui, c'est être éternellement branché, si l'on veut, à la source de la vie. Un peu comme un dé pipé qui retombe toujours sur le même chiffre, Dieu est celui qui fera toujours jaillir la vie des souffrances et découragements de ses enfants. Et l'apôtre Paul est très bien placé pour en parler. Lui qui n'a cessé de souffrir persécution, rejet, hostilité. Et pourtant, il a pu écrire, chapitre 4, verset 8, 10, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Nous sommes désemparés, mais pas désespérés. Nous sommes persécutés, c'est vrai, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. » Par là, Paul veut dire qu'aujourd'hui, c'est une vie à la suite de Jésus-Christ qu'il vive. Et Jésus a été rejeté, il a été persécuté, il a été crucifié. Mais au dimanche de Pâques, c'est la résurrection qui a tout englouti. Et si aujourd'hui, suivre Jésus, c'est le suivre sur un chemin de souffrance, demain, suivre Jésus, c'est le suivre sur un chemin de résurrection et de vie éternelle. Le Dieu qui nous appelle à le connaître est aussi le Dieu qui a triomphé de la mort au dimanche de Pâques. Au plus profond des ténèbres, il a fait jaillir la lumière. En lui, même la souffrance, même la mort ont dû s'incliner pour toujours devant la vie. Amen.